programme va maintenant se poursuivre en français. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute des émissions en langue française de Radio Prague. Comme chaque samedi, trois rubriques figurent au programme de la prochaine demi-heure et comme tous les 15 jours, nous ferons donc le tri de votre courrier. Place sera faite également à la littérature avec cette semaine une collection de thèses universitaires tchèques récemment inscrites au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Mais avant tout cela, place tout d'abord à une autre forme de culture. Rencontre aujourd'hui en effet avec le photoreporter de guerre, écrivain et documentariste français Patrick Chauvel, venu récemment à Prague pour rencontrer les jeunes adeptes du journaliste. Patrick Chauvel a présenté au public tchèque son livre intitulé Sky, publié en France en 2005 et qui vient de paraître en tchèque aux éditions Garamond. Au micro de Magdalena Rozinkova, Patrick Chauvel a parlé de Sky Eyes, un Apache enrôlé dans l'armée américaine et qu'il a connu pendant la guerre du Vietnam et aussi des moyens autres que les livres que ce grand reporter de guerre français utilise pour sensibiliser, réveiller, bouleverser le public de la vidéo et du photomontage.
Culture sans frontières.
Putting my life now on front line, but I don't care. You know, give me my freedom or give me my death.
Patrick Chauvel, bonjour.
Bonjour.
Vous collaborez cette année au projet Condition One, dans le cadre duquel vous étiez en Libye en mars. Pourriez-vous en dire plus sur ce projet?
C'est une start-up, une jeune compagnie américaine qui essaye de travailler avec Apple. Donc ce sont des films qui vont être vendus aux gens qui ont des iPads, des outils comme ça. Et ce sera projeté dans des salles spécialisées. C'est une nouvelle manière de montrer les reportages, c'est-à-dire que c'est à travers un très grand angle. Donc les gens sur l'écran pourront se promener dans l'image. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter les histoires par tous les moyens, que ce soit en photo ou en film. Et là, c'est encore un nouveau moyen d'intéresser les gens aux événements. C'est-à-dire qu'avec ce système, si vous êtes, par exemple, vous regardez le film que j'ai fait en Libye et que vous entendez un cri à droite, vous pouvez bouger avec la main sur l'écran et vous allez voir le type qui a crié à droite. Donc ça amène les gens à l'intérieur du reportage. La difficulté là-dedans, c'est que ça ne devienne pas un jeu vidéo non plus, parce qu'à ce moment-là, on perd le sens de la réalité. Et ils ont fait un teaser qu'on voit sur Google, qui dure 1 minute 20, qui montre bien ce que c'est. Mais il est pas parfait parce que il y a de la musique. Et la musique, ça donne le côté jeu vidéo. Heureusement, les films, quand ils seront finis, il y aura pas de musique, il y aura juste le son des Libyens qui répondent à mes questions ou des Libyens en train de se battre. Mais non, c'est intéressant de travailler pour une nouvelle compagnie qui essaye quelque chose de neuf. Parce que le but de la manœuvre, pour moi, c'est de toujours raconter, donc intéresser les gens pour les réveiller un peu et qu'ils n'oublient pas que la paix ici à Prague ou à Paris, c'est un miracle et qu'il faut l'entretenir, ce miracle.
Et en Libye, vous n'avez pas fait de photos classiques?
Si, j'ai fait des photos, bien sûr, pour les journaux français, oui, et américains. Donc j'ai fait de la photo et de la caméra, je faisais les deux.
Et donc quand vous filmez, il est clair que vous parlez aux gens, quand vous faites des photos, vous leur parlez aussi, comment ça se passe? Vous leur demandez de vous raconter leurs histoires?
Vous savez, une photo, ça dure 1/125 de seconde, alors donc je passe peut-être 5 heures avec des jeunes Libyens, ou des hommes politiques, ou des combattants, et à discuter, à rire, à manger, à boire, à me promener, à sauter dans leur jeep. Et à un moment donné, je fais des photos quand ça se présente. Mais la photo, c'est 5% de mon occupation. Et le film, c'est peut-être 10. Tout le reste, c'est un échange avec les gens. On vit avec eux.
Et vous êtes venu à Prague, entre autres, pour présenter votre livre Sky, qui vient de paraître en tchèque. Pour les lecteurs qui n'ont pas encore lu votre livre, qui était Sky et dans quelles conditions l'avez-vous rencontré?
Bah, Sky, j'étais tout jeune, c'était au Vietnam, donc mon premier reportage, vraiment un reportage de guerre. Et c'était un soldat américain qui avait 21 ans à l'époque, moi j'en avais 18. Et il était métissé, donc c'était un Apache indien nord-américain métissé, son père était écossais. Son père était ingénieur et travaillait sur les forages de pétrole dans la réserve indienne de San Carlos. Il a rencontré une Apache là-bas et ils ont eu des enfants. Donc Sky était un métis. On l'appelait Sky Eyes, c'était son nom d'indien, parce qu'il avait les yeux gris clairs. Une espèce de géant aux cheveux noirs, très longs, avec des yeux gris. Et il était un très bon commando au Vietnam et on s'est rencontrés dans la jungle pendant un combat et on est devenus amis. Donc c'est l'histoire d'une amitié entre deux hommes très jeunes et ensuite des dégâts que ça peut faire sur des gens jeunes, donc une espèce de violence qui est rentrée en nous malgré nous, et ça se termine à Paris où il avait fini par déserter et me rejoindre là-bas et on est devenus un peu fous tous les deux. Donc
c'est ce voilà. Qu'on appelle le syndrome du Vietnam?
Non, pas vraiment, parce que le syndrome du Vietnam c'était plutôt quelque chose qui poussait les gens à être déprimés et suicidaires. Nous on n'était pas suicidaires, on était dans l'action violente, mais dans l'action, on s'amusait beaucoup. Disons qu'on va dire que c'est pas le syndrome du Vietnam, mais c'est peut-être un des syndromes de la guerre, où on perd le sens de certaines valeurs, quoi. La vie, la mort, c'est pas très important quand on a fait, là on avait passé quoi, plus d'un an ensemble dans la jungle, voir des gens mourir, et donc on a un peu perdu le sens la violence faisait partie de notre quotidien. Donc c'est évidemment romancé, pour les besoins du livre, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça roman. J'ai changé quelques dates, quelques histoires, etc. Et j'ai retrouvé les dialogues qu'on avait eus, mais je les ai aussi étoffés. C'était difficile d'écrire un livre où le personnage qui était moi jeune, j'essaye à plus de 50 ans de penser comme un homme de 18 ans. C'était pas facile.
Vous avez mis longtemps à commencer à écrire ce livre?
Oui. À peu près, ouais. Ben, j'avais pas envie d'en parler en fait. À un moment donné, c'est une discussion un soir dans un bar avec quelqu'un. Ensuite, quelqu'un qui m'a dit que c'était peut-être une histoire intéressante. Ensuite, j'en parle avec mon éditeur. Et puis, trouver le temps entre deux reportages de l'écrire, quoi. Et puis, c'était pas facile parce que toutes les histoires sont ressorties comme. Donc, c'est comme revivre un drame d'un seul coup, exprès. Donc, c'est quoi être maso. Voilà, donc
c'est un peu tous les écrivains qui se révèlent.
Voilà, on devient un peu fou.
Vous avez dit dans une interview qu'il était dangereux, c'est peut-être ça aussi un des sujets de votre livre, qu'il était dangereux de se lier d'amitié avec quelqu'un dans une guerre. Pourquoi?
Bah, c'est dangereux pour soi, c'est dangereux, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est. Bah, beaucoup de gens meurent. Vous risquez d'avoir de la peine. Il vaut mieux pas s'attacher trop à des gens qui ont quand même, dans certaines situations, les gens à qui vous parlez, leur durée de vie va être de 15 minutes à 20 minutes, donc c'est pas utile de devenir pote, quoi. Sans ça, vous allez devenir fou. Donc il faut essayer de trouver une bonne distance, écouter les gens, sincèrement être humain dans la limite du possible, mais même certains soldats préfèrent ne pas être trop pote. Au Vietnam, le capitaine m'avait dit « Je veux rien savoir sur toi. » Et il nous donnait des numéros. Il disait « Hier, numéro 4 est mort, donc toi, tu es numéro 4 aujourd'hui. Je veux pas savoir si tu as une fiancée. Je veux rien savoir de toi. C'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'essayer de ramener le plus de gens possible vivants et de tuer le plus de Vietnamiens possible. Et mon problème s'arrête là. » Souvent, à la guerre, quelle que soit la cause, à un moment donné, les soldats se battent pour leurs copains. C'est ça leur cause. Je pense que les soldats tchèques en Afghanistan, au début, ont sans doute cru que c'était une opération utile, et certains doivent le croire aussi, puisqu'ils sont quand même capables de rester là-bas et de risquer leur vie tous les jours, il ne faut pas l'oublier. Certains qui perdent leur illusion sur le terrain restent parce qu'ils ne veulent pas abandonner leurs camarades. Et à un moment donné, ça se réduit toujours à ça, c'est-à-dire qu'on reste parce qu'on veut rester à côté de son ami. Et on défend son ami, et son ami vous défend. Et je pense que c'est la même chose pour tous les combattants. L'amitié dans ce genre de situation, c'est dangereux. Surtout pour un journaliste qui va faire plusieurs guerres. Un soldat, peut-être qu'il va en faire qu'une. Donc ses amitiés restent fortes. Et il va peut-être perdre des amis. Mais moi, j'ai dû faire plus de 30 guerres, 40 guerres, j'en sais rien. Je deviendrais fou si j'étais ami à chaque fois. Ça m'est arrivé une fois avec Sky, je ne veux plus recommencer. Je n'ai pas les moyens.
Et vous avez organisé cette année une exposition à Paris de photomontage. Vous avez replacé les images de guerre au centre de Paris.
Je voyais des Français à Paris qui s'insultaient pour une place de parking, qui étaient un peu racistes. Des voitures qui accéléraient quand les gens traversaient, donc je voyais des couples qui traversaient en courant. Je me suis dit, mais ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, ils vivent en paix, ils se conduisent comme des crétins, quoi. Ils sont agressifs, intolérants, racistes, alors que quand ils ouvrent le robinet, ils ont de l'eau, quand ils allument l'électricité, que tout va bien, quoi. Et que c'est vraiment des enfants gâtés, et on devrait leur montrer que c'est fragile, la paix. Et comme... quand ils voient les images de Tchétchénie ou de Somalie, encore plus, c'est loin, c'est des blagues, on s'en fout. Je leur ai mis sur leurs chaussures, moi. Et du coup, quand ils ont vu l'expo, ils ont fait « Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je dis « Bah, c'est ce qui va t'arriver si tu continues, quoi. » Les Tchétchènes vont être dans les rues de Paris, les Américains vont te demander des papiers à un barrage aux Champs-Élysées, on va tirer sur les bateaux mouches... Et je mettais la vraie photo à côté pour rappeler l'événement, pour rappeler les morts, pour rappeler ce qui se passait. C'était juste un coup de colère. Et curieusement, je pensais me faire insulter, ça a marché. C'est-à-dire qu'ils ont fait venir des écoles, ils montraient des choses, parce que ça provoquait des discussions, en fait. Un, sur l'art, la photo, le photomontage, évidemment, le sujet évident et simple, mais surtout plus loin sur ce qu'avaient vécu les gens pendant la Deuxième Guerre mondiale, et montrer aux jeunes que ben, la paix, c'est pas un acquis. Il a fallu se battre pour que la paix soit là, et il faut se battre pour qu'elle reste. Donc il y a un comportement à avoir, et les premiers signes du fascisme ou de ce genre de choses, c'est l'intolérance, c'est le racisme, c'est les gens qui font pas attention, quoi. Donc il faut être vigilant, extrêmement vigilant. Donc voilà, c'était pour montrer ça. J'ai eu du mal à. C'est un projet que j'ai commencé il y a plus de 10 ans. Mais personne n'en voulait, les gens ils trouvaient ça trop provocateur. Les premières images que j'ai montées, j'avais fait foutu l'intifada palestinienne au pied des deux tours à New York, donc en 98. Et quand les deux tours sont tombées, j'ai enlevé l'image de mon expo, parce que je me suis dit, on va jamais me croire, on va croire que je l'ai fait après, que je suis opportuniste. Mais en fait non, je l'avais fait avant. Et le problème avec cette expo, c'est qu'au fur et à mesure des années où j'essayais de la proposer, il y a plein de gens qui me disaient non d'autres pays, parce que ça devenait vrai dans leur pays. Quand j'ai proposé de mettre des bombes à Londres, il y en a eu. Il y en a eu à Madrid aussi. Donc à un moment donné, je me suis dit, merde, si j'attends trop longtemps, mon expo, on croira que c'est vraiment les photos. S'il y a des attentats à Paris, finalement, voilà, ça a été montré à la Monnaie de Paris, c'était une expo incroyable, avec des photos immenses, et ça a enclenché plein d'interviews, plein de débats, plein de discussions sur la paix, sur le racisme, sur comment faire pour faire attention que ça ne nous arrive pas, comment aider aussi ces pays qui continuent à être en guerre. Et c'était curieux, parce que les gens avaient vraiment le discours que je défendais, c'est-à-dire qu'ils m'aidaient dans mon discours, parce qu'il y avait des gens qui disaient « c'est terrible, ces Tchétchènes qui se battent sur les Champs-Élysées ». Et en voyant la vraie photo des Tchétchènes à côté, il disait « Ah, ouf, c'est en Tchétchénie ». Je dis « Mais tu te rends compte de ce que tu viens de dire ? C'est ok en Tchétchénie et pas ok si c'est ici. » Mais les Israéliens et les Palestiniens, c'est facile de critiquer Israël aussi. Seulement si vous mettez une bombe dans un bus à Paris, votre réaction, ça va être quoi ? La même qu'eux. Une réaction de défense agressive. Alors, c'est pas une raison pour aller trop loin, mais c'est une explication au moins. Et donc, ça a permis de comprendre une chose, c'est mettre les gens en perspective de ce qui se passe. Mais c'était dangereux à faire, parce que il y avait un risque de mettre risquer la crédibilité du photographe et de la photo, quoi. Mais bon, j'ai jamais voulu faire croire que c'était vrai. C'était juste un instant. une proposition.
Je vais vous poser une question très personnelle. Il y a des gens qui disent, après avoir vécu la guerre, qu'ils n'ont pas pu croire en Dieu. Il y a d'autres qui disent qu'au contraire, c'est un moyen important de survie. Est-ce que vous, vous vous êtes posé cette question dans votre vie?
Non. Non. Dieu? C'est qui? Je ne l'ai pas rencontré, en tout cas. Non, je ne me suis pas posé cette question. Plus tard. Maybe, peut-être.
Voilà, c'était donc le photoreporter de guerre français, Patrick Chevel. Il répondait aux questions de Magdalena Rosinkova. Place maintenant à l'une de vos rubriques préférées, une rubrique dans laquelle la parole vous est en effet laissée. Malheureusement, le courrier est peu abondant ces derniers temps et nous le comprenons, même si, comme vous allez l'entendre avec Václav Richter, certains d'entre vous, toujours fidèles au poste, du moins si on peut encore dire les choses comme ça depuis la disparition des ondes courtes, continuent de nous écrire.
Courrier des auditeurs.
Nous constatons avec plaisir que la suppression de la diffusion de nos émissions en ondes courtes n'a pas coupé les rapports et les contacts entre Radio Prague et ses auditeurs.
Nous recevons toujours des lettres et des courriels de votre part et nous vous en sommes reconnaissants.
Voici quelques citations d'émissives que nous avons obtenues de votre part ces derniers temps. Cette émission vous sera présentée par Jean-Sébastien Letang et Václav Richter.
Cette fois, nous allons citer surtout un courriel que nous avons reçu de notre auditeur André Biot de Belgique et nous allons répondre aussi à quelques-unes de ses questions.
J'apprécie toujours beaucoup vos programmes, écrit-il. J'ai ainsi appris l'existence d'un important festival de marionnettes à Charleville-Mézières. C'est à même pas 50 km de chez moi, de l'autre côté de la frontière. Certains de mes amis étaient au courant de ce festival. J'ai fait la connaissance aussi du tennis ballon à l'occasion du programme Le Sport en Tchéquie de ce lundi 3 octobre avant les championnats d'Europe qui vont se dérouler en Corse. J'ai essayé d'en savoir plus sur Internet et même si les règles sont expliquées, je suis curieux de découvrir ce sport car je dois bien avouer que je n'en ai pas compris les règles. C'est un peu comme le jeu de balle très pratiqué chez nous en Belgique, mais auquel, je dois bien l'avouer, je ne comprends pas grand-chose non plus. Vous savez sans doute que j'aime beaucoup le sport, même si je n'ai jamais beaucoup pratiqué. En parlant de sport un peu moins connu, je me souviens des frères Pospichil qui ont été plusieurs fois champions du monde de cycleball. J'ai vu 20 fois sur Internet et j'ai vu aussi que ce sport était pratiqué en Belgique. Je ne savais même pas. Qu'en est-il de ce sport à l'heure actuelle en République tchèque ?
Le cycleball est un sport traditionnel tchèque. Les derniers champions du monde tchèque de ce sport ont été Rady Masoň et Jiří Hrdlička en 2008, au championnat de Dornbirn et Pavel Schmid et Peter Skotak en 2004 à Tatar près de Budapest.
Pour en terminer avec le sport, poursuit M. André Biot, j'ai lu ce matin que le bilan du sport belge en cette année pré-olympique était le plus mauvais en ce qui concerne le nombre de médailles obtenues à des championnats d'Europe et du monde pour des sports olympiques. Nous n'avons obtenu que 3 médailles et même s'il reste encore 3 mois avant la fin de l'année, je ne vois pas dans quel sport nous pourrions encore avoir des médailles. Et en République tchèque ?
Voici quelques succès que les sportifs tchèques ont remportés au cours de cette année. La lanceuse de javelot, Barbora Špotáková, s'est classée deuxième au championnat du monde de Daegu et a occupé également la deuxième place dans les compétitions de la Ligue du Diamant. La rameuse Miroslava Knapkova a été sacrée championne du monde de skiff, la discipline reine de l'aviron à Bled en Slovénie. C'est à Bled également que le rameur Ondřej Sinek a obtenu la médaille d'argent lui aussi en skiff. Et il ne faut pas oublier non plus les succès en VTT, vélo tout-terrain, de Jaroslav Kulavi, sacré cette saison champion du monde et d'Europe et vainqueur du classement général de la Coupe du Monde.
Après une période de très beau temps, une dizaine de jours, les températures sont bien retombées ici, comme un peu partout en Europe, je pense, poursuit M. André Biot. Après près de 500 jours de négociations, il semble que nous allons avoir enfin bientôt un gouvernement. Mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Après, le nouveau gouvernement devra s'attacher à la confection du budget 2012. Hier, une des banques les plus importantes en Belgique a frôlé la catastrophe. Et les banques en Tchéquie sont-elles sûres dans le contexte actuel ?
On nous assure que les banques tchèques sont en bonne santé parce qu'elles n'ont qu'un minimum de crédit problématique. Le gouvernement du Premier ministre, Petr Nečas, a pris des mesures de restriction draconiennes pour réduire le déficit budgétaire et la situation économique de la République tchèque semble assez stable. Cependant, comme le système économique de la République tchèque est ouvert, le commerce extérieur y joue un rôle important. Nous dépendons donc en grande partie de la santé de nos partenaires économiques et surtout de l'Allemagne. La deuxième étape de la crise financière qui pointe à l'horizon risque donc de se répercuter aussi négativement sur la situation économique de la République tchèque.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de vos lettres et de vos courriels et de l'intérêt que vous portez aux émissions de Radio Prague.
Continuez à nous écrire et à nous écouter. À bientôt.
On reste avec Václav Richter, toujours en notre compagnie, avec cette fois sa rubrique littéraire. Mercredi 5 octobre dernier, le directeur de la Bibliothèque nationale tchèque a reçu, lors d'une cérémonie au Clementinum à Prague, le certificat sur l'inscription d'un important ensemble de documents qui se trouvent dans ses archives au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Une récompense à laquelle est donc consacrée cette rubrique.
Rencontre littéraire. L'UNESCO a récemment inscrit au registre de la mémoire du monde une troisième collection de documents historiques se trouvant dans les archives de la République tchèque. Cette fois, il s'agit d'une collection de 526 copies de thèses universitaires datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Cette collection de thèses, ornée de gravures d'illustres artistes, revêt une grande valeur documentaire, mais aussi esthétique. C'est en 1992 que l'UNESCO a mis en place le programme Mémoire du Monde pour sauver le patrimoine documentaire de l'humanité menacé de disparition, de pillage, de dispersion et de trafic illicite. Le registre de la Mémoire du Monde a été créé en 1995. Les documents y étant inscrits doivent être recommandés par le Comité consultatif international et approuvés par le directeur général de l'UNESCO. Ne peuvent être choisis que les documents exceptionnels pour leur intérêt international et leur valeur universelle. Trois collections de ce genre représentent déjà la République tchèque dans le registre de la mémoire du monde. En 2007, y a tout d'abord été inscrite la collection des manuscrits médiévaux de la Réforme tchèque, collection qui se compose notamment d'ouvrages des prêtres et des prédicateurs laïcs majeurs, ayant inspiré le mouvement de la Réforme tchèque, processus qui a bouleversé le monde médiéval et a transformé le visage spirituel de l'Europe. On y trouve entre autres les ouvrages de Jan Hus, prêtre universitaire et réformateur de l'Église catholique, condamné au supplice du feu par le Concile de Constance en 1415. Le deuxième ensemble de documents à figurer dans le registre également depuis 2007 est la collection de périodiques russes, ukrainiens et biélorusses publiés entre 1818 et 1945. Cet ensemble de périodiques, de journaux et de revues est conservé à la bibliothèque slave appartenant à la Bibliothèque nationale de Prague. Il réunit les documents sur les riches activités des élites russes expatriées après la grande révolution d'octobre. Dans l'entre-deux-guerres, la Tchécoslovaquie a été un des grands centres de l'émigration russe et grâce au soutien du gouvernement, elle a aussi été le plus important dépôt d'archives sur les activités intellectuelles de ces émigrés. Enfin, le Comité consultatif international a donc sélectionné la collection de 526 copies de thèses de l'Université Charles de Prague, remontant à la période de 1637 à 1754. Le directeur de la Bibliothèque nationale, Thomas Böhm, est très satisfait de cette décision.
Pro Národní knihovnu je to samozřejmě velké vyznamenání, protože se jedná o třetí zápis.
Pour la Bibliothèque nationale, c'est évidemment un grand honneur parce qu'il s'agit de la troisième inscription au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO. Et c'est aussi une haute distinction pour la République tchèque et ses monuments littéraires, parce qu'il est inhabituel que des documents littéraires soient inscrits sur la liste de la mémoire du monde de l'UNESCO. Il est également inhabituel que trois documents littéraires d'un pays de la taille de la République tchèque figurent sur la liste de l'UNESCO. C'est donc évidemment une haute distinction pour la République tchèque.
C'est l'ancien doyen de la faculté des lettres, Mathieu Ehrlich, qui a réuni cette collection unique de thèses universitaires pour la léguer en 1810 à l'université Charles. Grâce à un heureux concours de circonstances, la collection a été conservée à l'endroit où elle a été créée, c'est-à-dire au Clementinum, ancien collège des jésuites. Les thèses de la collection reflètent les disputations et les débats universitaires et ont également une riche composante visuelle. Conservatrice du département des archives historiques de la Bibliothèque nationale, Miroslava Hejnová présente les gravures ornant ces thèses.
Les sujets de ces gravures sont variés. Il s'agit par exemple d'apologies de saints patrons, mais il y a aussi des vues de ville ou bien des portraits de personnalités importantes, d'empereurs, etc.
Parmi les auteurs de gravures figurent quelques-uns des plus grands artistes pragois de l'époque, parmi lesquels les célèbres peintres Karel Škreta et Petr Brandl. Les dimensions des thèses sont considérables. Elles mesurent en général 1 mètre sur 50 centimètres, mais certaines sont encore plus grandes. Miroslava Hejnová ajoute une explication à leur origine.
Après la disputation, c'est-à-dire après la soutenance de la thèse par l'étudiant à l'université, ces gravures servaient de certificat commémoratif.
Toutes les thèses sont imprimées en noir et blanc sur du papier main. Le texte imprimé est une source importante d'informations sur les études philosophiques et les cérémonies officielles dans les universités au XVIIe et XVIIIe siècle. Selon les documents de l'UNESCO, la collection illustre de manière unique le phénomène de la culture baroque dans l'environnement universitaire européen et fournit des documents comparativement irremplaçables par rapport aux universités ou autres types d'établissements scolaires en Europe dont les collections n'ont malheureusement pas été aussi bien conservées. Le succès international de la collection a été précédé de la décision prise en 2010 par le ministère de la Culture de donner à cet ensemble de documents baroques le statut de monument classé. Le directeur de la Bibliothèque nationale, Thomas Böhm, espère cependant que ce statut ne constituera pas une barrière insurmontable entre la collection et le public et que le plaisir de voir les thèses originales ne sera pas réservé qu'aux spécialistes.
Nous serions navrés si le fait de les inscrire au registre de la mémoire du monde rendait ces documents inaccessibles aux gens. Ce serait contraire à nos intentions, car nous voulons ouvrir notre bibliothèque et nos monuments aux lecteurs.
Dès 2010, les thèses de la collection ont été numérisées et mises à la disposition de tous les intéressés dans le Manuscriptorium, les archives numériques de la Bibliothèque nationale.
C'est donc avec l'inscription de cette collection de thèses universitaires tchèques au registre de la mémoire du monde de l'UNESCO que s'achève pour aujourd'hui le programme en langue française de Radio Prague. Merci de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute. Ahoy.
Radio Praga continúa.